Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. On va commencer par Jean-Pierre Farandou. On n'en a pas parlé hier. Alors, est-ce qu'il est sacrifié, Jean-Pierre Farandou? Certes, il y a la limite d'âge, mais il y a bien sûr eu ce fameux accord de fin de carrière considéré comme confortable, qui a été consenti aux cheminots le 22 avril pour être certain qu'il n'y ait pas de grève pendant les ponts du mois de mai et bien sûr les Jeux Olympiques. On évoquera aussi deux, trois questions autour du logement pour la loi Kasbarian. Je posais la question hier à Guillaume Poitrinal, mais Robert Rivaton me donnera son avis, ça m'intéresse, parce que c'est quand même un sujet à multiple entrée, la question du logement. Et est-ce que dans ce texte, on trouve des éléments de réponse politique à la double choc que nous vivons, qui est un choc d'offre et un choc de demande. Et puis, l'histoire du salaire décent avec le patron de Michelin, bon, je vous en parle depuis plusieurs jours, mais quand même, ça soulève un vrai sujet sur la question du partage de la valeur. Bonjour Christian Deboissieu.
Bonjour.
Merci d'être là, professeur à Paris 1, Panthéon Sorbonne et vice-président du Cercle des économistes. On dit un mot des rencontres d'Aix dans un instant. Benjamin Coria, bonjour.
Bonjour.
Professeur de Sciences Éco à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés. Vous avez publié Le bien commun, le climat et le marché, réponse à Jean Tirole, aux éditions Les liens qui libèrent. Robert Rivaton.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous attends sur la loi Kasbarian. Directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate et membre du conseil scientifique de la Fondapol, auteur de Sourillons, nous sommes filmés aux éditions Alpha. Jean-Pierre Farandou s'en va, Benjamin Coria, enfin s'en va. En fait, il fait une intérim. Il aurait dû quitter son poste à la fin du mois de mai. Il couvre les Jeux Olympiques, mais on a compris qu'il ne sera pas reconduit. Il va falloir lui trouver un successeur, sachant que les entreprises publiques ont des rémunérations qui ont été capées par François Hollande à 470 000 euros, ce qui fait que trouver des volontaires n'est pas toujours facile, on l'a vécu chez EDF. Comment vous regardez le départ de M. Farandou, qui s'est présenté devant les sénateurs en défendant bec et ongles l'accord qu'il a signé avec tous les syndicats, ce qui est rare à la SNCF le 22 avril? Ça vous...
Non, mais si vous voulez, moi j'ai deux remarques. Une première remarque, c'est sur la forme, et puis surtout une remarque sur le fond.
Continuez, je mets votre micro comme il faut, parce qu'il n'est
oui.
pas comme il faut.
Non, je vous en prie.
Voilà.
Merci. Allez. Non, je dis, j'ai deux remarques. Une sur la forme, très rapide, et une sur le fond. Sur la forme, je trouve ça vraiment pas de très bonne augure et de très bonne politique que un ministre intervienne aussi fortement, si je peux dire, hein, parce qu'en fait...
Pensez à Bruno Le Maire.
Oui, bien sûr. Il le démissionne pour la gestion d'une entreprise publique.
Il ne le renouvelle pas.
Oui, mais enfin...
Bon, le mandat est arrivé
à terme. Nous savons comme joliment ces choses-là sont dites.
Oui, hein. D'accord. Dans les faits, il n'est pas renouvelé.
Oui,
il est en plus atteint par la limite d'âge, ce qui est vrai.
Oui, hein. Mais tout le monde interprète ça comme une sanction de
oui,
fait.
C'est bon, vécu comme une sanction.
Bon, voilà. Je trouve ça d'autant plus regrettable que le bilan de... Après, on va parler de l'accord, je vais dire un mot sur l'accord. Ouais. Le bilan de M. Farandou est plutôt très bon. Hein. C'est-à-dire que, comme vous le savez vous-même, et comme vous l'avez expliqué, il a récupéré une entreprise en déficit, il l'a mise au vert, il a traversé une période extrêmement difficile, qui est celle de la réforme des retraites. Il a quand même conduit sa barque, alors dans des conditions très difficiles, parce que la SNCF n'est pas n'importe quelle entreprise. Donc voilà, je trouve qu'il a plutôt un bon bilan. Alors ça, c'est sur la forme. Sur le fond, il est clair que l'accord qui a été signé est plutôt bon pour les salariés. Je crois que c'est pas très discutable.
Mais un régime de retraite
oui,
très spécial.
Oui, mais en même temps, pour faire passer la pilule des retraites dont personne ne voulait, hein, je veux dire, à la fin de la signature.
Oui, mais vous êtes économiste, Benjamin Coria. Vous savez bien qu'il y a un moment le déséquilibre actif-inactif.
Non, mais il y avait d'autres. On va pas refaire le débat.
Non,
maintenant.
On va pas refaire le débat.
Moi, j'étais du côté de 70% des Français qui trouvaient que cette réforme était injuste, mal faite, etc. Bien. Donc, si je suis largement majoritaire là-dessus, ça m'arrive.
Oui,
ah,
mais
pas souvent.
Ah, mais vous serez majoritaire.
Bon, voilà.
Mais les paramètres de réforme d'une retraite, vous les connaissez comme moi.
Oui,
il y en a
je
pas
les connais.
Non plus,
et de très nombreux experts avaient une toute autre idée de la réforme à faire. Bon,
revenons sur
l'accord. On ne va pas revenir là-dessus. Bon, donc, Vous m'avez interrompu, si je peux
oui,
dire.
Oui, je le reconnais.
Non, mais je comprends très bien, c'est pas le souci. Au moment où j'étais en train de dire que pour nous vendre cette réforme des retraites, on nous avait dit les questions de pénibilité, il n'y a pas de souci, elles seront prises en compte. Bien, dans des dispositions ultérieures. Si vous regardez cet accord, il touche pour l'essentiel les situations de travail pénibles. C'est celle-là, ah ben c'est le cœur, c'est le cœur.
Non mais je veux bien. Plus avantagés sont les contrôleurs, les chefs de bord.
Oui,
la
non,
pénibilité.
Mais c'est aussi le travail de nuit, le travail intercalé, oui. Etc. Donc, d'une certaine manière, on peut considérer que je suis pas en train de. Cet accord est bon pour les salariés. Je dis pas le contraire.
Ils ont tous signé.
Bien
même
sûr.
Sudra,
mais,
et la CGT.
Mais ça, c'est, je mets pas en question. Mais d'une certaine manière, il n'a fait que. Rentrer dans la brèche, si je peux dire, du travail pénible pour lequel on nous avait fait toutes les promesses du monde sur le thème « Ne vous inquiétez pas, d'ailleurs cette réforme est juste, elle va faire progresser, etc. » Et là où on obtient quelques résultats, on dit « Ah ben non, pas touche, ça remet en cause le cœur de la réforme des retraites. » Donc si vous voulez, on ranime un débat extrêmement douloureux, en faisant payer quelqu'un qui, justement, utilise l'une des dispositions annoncées pour faire passer cette réforme. Donc voilà, sur le fond, je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'on nous a, non seulement nous a imposé une réforme qu'on ne voulait pas, mais en plus on nous a menti pour imposer cette réforme, à savoir que les questions de pénibilité seraient prises en compte, et lorsqu'elles le sont d'une manière qui est effectivement plutôt favorable pour les salariés, on dit, ah ben non, surtout pas, et donc on vire la personne. Donc voilà, je trouve D'accord. que sur le fond, c'est une très mauvaise nouvelle, et voilà, c'est un peu embêtant.
Je donne la parole à Christian Desboissieux. Je précise que là où vous avez totalement raison, Benjamin Coria, c'est que l'accord qui est intervenu le 22 avril était une renégociation demandée
bien
par
sûr,
l'exécutif.
Bien sûr, en plus.
En février 2023, d'un précédent accord qui remonte à il y a plus de 15 ans.
Bien sûr.
Quand Bruno Le Maire nous dit « je n'étais pas au courant », c'est un peu fort de café.
Mais bien sûr. Mais bien...
Christian Desboissieux.
Moi, je pense qu'il y a deux, je ne sais pas s'il faut dire erreurs, ou qui se cumulent dans cette affaire. La première, du côté de l'entreprise, c'est de donner le sentiment de s'asseoir sur la réforme des retraites quelques mois après une adoption qui a été très compliquée. Bon, et la deuxième erreur, elle vient de la gouvernance étatique, et là je rejoins ce qu'a dit Benjamin sur le deuxième point, pas sur le premier. Sur le deuxième point, je pense quand même qu'il y aurait eu moyen de gérer cette affaire autrement que par une convocation illico de M. Farandou à Bercy,
oui,
que je sache... Il y a des représentants de l'État au
oui,
conseil de la
oui,
SNCF,
oui, oui, sûr, hein,
que je sache. Donc, je trouve que du point de vue de la gouvernance de cette entreprise, ça a été extrêmement mal géré, même si aujourd'hui on utilise l'argument de l'âge pour ne pas renouveler
vous avez complètement raison.
Le mandat de M. Farandou.
Ça se repousse,
donc,
une
je trouve que c'est, si vous voulez, j'ai dit ma erreur, des grosses maladresses, je suis entre maladresse et erreur, mais qui se cumulent, c'est pas 15 ans, je dis pas ça quelques jours de Roland-Garros, c'est pas 15 ans, mais je veux dire, pour moi, il y a du problème des deux côtés.
Bon. Moi, je voudrais juste un
oui,
point. On a dit c'est pour éviter les Jeux
les
Olympiques.
Les grèves, et les Jeux Olympiques.
M. Farandou lui-même a dit je voudrais que la négociation, en gros, la négociation sociale ne soit pas tout le temps la conséquence d'une grève, mais qu'elle anticipe le long terme de l'entreprise. Donc, je veux dire, il faut lui rendre ce mérite-là aussi. On dit toujours, ah, les Japonais, ils sont formidables, ils font jamais de grève. Mais justement, parce qu'il y a des négociations qui anticipent en permanence.
Oui, mais à 0% d'inflation salariale, le Japon,
voilà,
sur 20 ans, c'est
exactement
si peut prendre,
ce que j'ai
dit. Si on peut prendre l'exemple de
la Japonie. Oui,
le Japonais,
pendant des années, ça a été ça.
Robert Rivato, il a raison, le Japonais est un personnage à part sur la planète.
On peut pas comparer, si on peut...
C'est le seul qui peut travailler toute sa vie sans jamais demander de hausse de salaire, le Japonais.
Il y a trois semaines, on a évoqué cette nouvelle, et j'étais ici même, et je m'en suis ouvertement effaré, quand même, parce que oui, on peut faire de la pénibilité. La question, c'est qui la paye? Là, elle est payée par les impôts des Français. Donc, en fait, c'est pas comme si la SNCF était aujourd'hui suffisamment bénéficiaire.
Qui en bénéficie?
Allez, laissez-le terminer!
Parce qu'elle a 20 milliards de transferts qui passent de l'État, donc de l'impôt, à la SNCF par an, avec une partie de ces transferts qui ne sont pas justifiés par des missions de service public, qui sont liées à la structure déficitaire de la productivité des salariés de la SNCF. Donc non, aujourd'hui...
Bon, ça, c'est aujourd'hui, très vrai. C'est vrai. C'est renseigné par François Eckhall, on va dire, l'a montré à l'euro près.
Ça renvoie à tout le système de réorganisation et de mise en concurrence.
François Eckhall nous a fait la liste des 20 milliards. Il y a effectivement des services que les États et les régions, achètent. Il y a 4 milliards pour combler le déséquilibre des retraites de la SNCF.
Mais vous voulez une infrastructure dans ce pays ou vous n'en voulez pas ?
Je suis d'accord sur le fait que l'État et les régions payent des infrastructures
dont ils ont besoin. C'est pour 16 milliards et il reste 4 milliards qui sont liés à des dépenses de fonctionnement, pas des dépenses d'investissement. François Eckhall l'a montré à l'euro près exactement. C'est un peu moins de 20 milliards, c'est 19.
Mais c'est pas le VMH,
Laissez Robin terminer. Mais
tout ça pour dire que grosso modo, cet accord sur la pénibilité, c'est un accord sur la pénibilité qui est fait sur le dos des impôts, du moins avec nos impôts. Et donc on a le droit de s'en émeuvoir. Et juste un autre point, la situation des entreprises publiques françaises où tout d'un coup quelqu'un qui arrive en fin de mandat, qui arrive avec une limite d'âge, c'est écrit, c'est la règle, et tout d'un coup on s'émeuve en disant qu'on devrait repousser la limite d'âge, qu'on devrait faire automatiquement un deuxième mandat, mais pourquoi ? Excusez-moi, dans les boîtes privées, tout le temps, quand quelqu'un arrive en limite d'âge, on lui dit c'est fini, et on change, on lui trouve un successeur, on fait des plans de succession.
Ou on repousse la limite d'âge.
Non, et bien ça c'est des mauvaises pratiques, c'est des mauvaises pratiques, de gouvernance. Des mauvaises pratiques de gouvernance. Quand on fixe des règles en gouvernance dans une entreprise, étant administrateur d'un certain nombre d'entreprises, je peux vous le dire, quand on fixe des règles, on les tient, on change pas les règles sur le prétexte.
Robin, si je peux dire un mot là-dessus, Robin, c'est que moi j'aimerais, ok pour la règle, on l'applique, mais on l'applique à tout le monde.
Bien sûr, en fait.
C'est ça le problème.
Pas de souci. Non mais c'est pas du contraire.
La limite d'âge.
Je sors du cadre de Monsieur Farandou. Je dis juste que quand on fait de la gouvernance d'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, quand on fixe des règles, c'est pas pour les contourner systématiquement. Et la règle de la limite d'âge, on l'a contournée, pas que sur.
On l'a contournée à plusieurs reprises.
Je suis d'accord avec Robin qui considère que s'il y a une règle, on la respecte. La règle, c'est 68 ans. En l'occurrence, cette limite d'âge avait été imaginé de la repousser, et puis bon, là, le choix politique a fermé le banc. Mais il est totalement vrai, et là, autant j'ai considéré qu'effectivement, bon, il était un peu sacrifié. Enfin, il n'y aurait pas eu... Le fond de ma pensée, c'est qu'il n'y avait pas l'accord du 22 avril, il faisait un autre mandat.
Mais bien entendu, voilà, tout le monde le sait.
J'en suis sûr. Après, c'est ce que je disais hier dans la chronique. Après, quand il nous dit que ça coûte 35 millions d'euros par an, je pense que c'est le bas de la fourchette. Et quand il dit que ça ne coûte pas un sou aux contribuables, là, je ne suis pas d'accord, parce qu'effectivement, sur les 20 milliards d'argent public annuel, il n'y a pas 20 milliards de subventions, mais il y a entre 3 et 4 milliards pour équilibrer les
régimes. Aux contribuables ou aux clients ?
Ou aux clients. Alors,
il y a quand même le débat sur l'évolution des tarifs de la
SNCF. Il a expliqué au Sénat que rien ne sera répercuté sur les clients, car ça ferait 29 centimes par billet, ce qui n'aurait aucun sens, dit-il.
Non, mais je rajoute juste un point. Il faudrait revenir en détail sur comment s'est faite l'ouverture à la concurrence, comment la SNCF a été divisée en plusieurs sectes, en plusieurs activités, comment elles sont financées, et on verrait que ces 20 milliards, ce n'est pas des fautes de gestion du gouvernement, de l'entreprise. Bon, ça, c'est
on
mon premier point.
On
n'a
pas parlé de fautes de gestion, Benjamin, quand même.
Mais un dépassement de budget, etc. L'autre aspect de la question, et ça je l'ai dit et je le répète, en tout cas c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister, qui est que les choix qui ont été faits tarifaire d'un côté, d'investissement dans le TGV d'autre part, etc., n'ont pas été faits par la seule gouvernance de la SNCF. Ça a été fait sur impulsion, imposition de l'État. Qu'il se retrouve derrière à payer les pots cassés, il faut arrêter de sortir tout d'un coup des arguments contre Farandou.
D'arguments contre Farandou. Si effectivement, si les régions veulent des lignes qui coûtent de l'argent et qui n'en rapportent pas, elles payent. Si l'État veut de l'intercité ou du train de nuit qui ne rapporte pas d'argent qui en coûte, il paye.
Et, ben voilà.
Et vous prenez les 20 milliards, et on sait parfaitement sur l'ensemble des 20 milliards ce qui correspond à des services que la puissance publique achète à la SNCF. Mais ça va pas jusqu'à 20. Et il y a une partie de cet argent qui est pour aider à l'investissement et une partie qui est pour équilibrer le régime des retraites des cheminots. Vous avez quoi ? 230 000 cheminots retraités pour à peu près 160 000 actifs.
C'est ce qu'on appelle la solidarité qui fait qu'un État tient. C'est ça qui fait qu'on n'est pas le Nigeria.
Non mais d'accord, mais Admettons que ça coûte de l'argent.
Oui, ça coûte.
Bon. Oui.
En changeant de sujet.
Vous pouvez changer de sujet.
vous rappelez que le Cercle des économistes tient ses journées annuelles, ses rencontres, début juillet, 5, 6, 7 juillet.
On y sera.
Aix-en-Provence, vous y serez. Oui. Nous y serons, plusieurs en tout cas, sur un thème, j'allais dire, volontariste, dans un monde fragmenté, dans un monde conflictuel. Notre thème, c'est relier les mondes.
Mais oui.
Relier les mondes. Point. Vers une réconciliation. On n'a pas mis de point d'interrogation, d'ailleurs, derrière réconciliation, parce que nous sommes volontaristes, optimistes dans un contexte qui n'est pas vraiment. Voilà. Et donc, on va rassembler et les gens intéressés par relier les mondes, mais relier les mondes dans tous les sens du terme. Géographiquement, le débat sur Nord-Sud, Sud global, relier les générations, les anciens, les jeunes, etc. Relier les territoires, voilà, relier les mondes. Le débat capital-travail qu'on va retrouver tout à l'heure, j'imagine, à propos des salaires, etc. Relier les mondes. Dans un contexte où, je répète, l'économie mondiale se fragmente, les conflits sont... Pas besoin d'en parler, vous avez des risques systémiques qui s'accumulent au lieu de se succéder. Voilà, je me permets de faire de la
raison.
Pub pour les rencontres, parce que je ne sais pas si on aura le temps d'en parler
mais
tout à l'heure.
Mais j'avais prévu de vous lancer dessus, et puis ça m'a... Mais vous avez bien fait. J'achète totalement l'idée, c'est marrant, j'ai le sentiment que la SNCF, c'est vraiment un cas à part. Je reviens à ma SNCF. Il y a une phrase de Farandou qui m'a fasciné au Sénat. Bon, il défend l'accord, tout ça. Et il a déclaré... on ne peut pas transformer une entreprise publique de 150 000 cheminots à forte culture maison. J'ai trouvé ça comme un aveu de fatalité. L'entreprise est ingouvernable, en fait.
Non,
ça m'a rappelé...
Elle, non seulement elle n'est pas ingouvernable, mais elle est gouvernée. Mais bien sûr qu'elle est gouvernée.
Mais vous savez...
Quand vous avez à prendre un train, il est à l'heure 9 fois sur 10. Elle est gouvernée, l'entreprise.
Ça m'a rappelé...
Ça veut dire... C'est plus la question du rythme de la transition, du changement qui est évoqué par cette phrase, que le principe même de savoir si on peut changer.
Le
problème des transitions, excusez-moi.
Oui, mais ça m'a rappelé cette phrase de Louis Gallois en 2004, illustre prédécesseur. On lui dit, mais on peut changer la SNCF. Il avait répondu, 8 ans à la tête de la SNCF, ça vous vaccine contre l'optimisme. La phrase est sublime, mais voilà, elle était chargée de sens quand même. Bon, chacun a donné son point de vue sur la SNCF. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Emploi et salaire, vous vouliez pas.
Oui, alors allons-y, tiens. Cette histoire de partage du profit, elle a été remise au cœur de l'actualité par le patron de Michelin, et il avait fait une première déclaration un peu borderline dans Le Parisien, en considérant que le SMIC n'était pas décent. Bon, qu'il fasse ce qu'il veut dans son entreprise. Ok, dire publiquement dans un journal de grande lecture que le SMIC n'est pas décent. Et alors là, il nous explique dans les colonnes du JDD qu'il faut plafonner les salaires les plus élevés. Ça, vous avez vu
On avait fait le commentaire effectivement avec quelqu'un qui travaillait dans les services à la personne, donc qui avait.
C'était Guillaume Richard,
absolument. Le vicaire, qui disait que effectivement, quand on dirige une entreprise industrielle avec quelques sites de production restant en France, on peut se permettre ce type de saillie. On a du mal à comprendre le plan de communication qu'il y a derrière, parce que effectivement, deux fois en deux mois, c'est rarement le fruit du hasard. Donc, je pense qu'il y a quelque chose derrière. La posture de patron moral, elle est très facile à prendre, hein, surtout quand il y a eu la polémique sur le salaire Tavares il y a quelques semaines ou jours. La question, c'est pourquoi, quel est l'intérêt de la tenir aujourd'hui? C'est-à-dire que je doute encore une fois que ce soit vraiment simplement pour un amour du bien commun et de l'intérêt public. Je me pose la question la motivation intrinsèque qu'il y a derrière, parce que encore une fois, il n'y a pas deux journaux qui vous appellent deux fois en un mois pour faire des trucs. C'est-à-dire que vous avez une agence de communication qui a appelé des journalistes, qui a préparé des interviews, vous avez mis des éléments de langage dans les interviews, vous saviez que ces éléments de langage allaient faire les unes de la presse. Donc, essayons de comprendre quel est l'intérêt caché derrière.
Le paternalisme du père Michelin d'avant, mais François Michelin, Christian Leboissieu.
Je rappelle que ce débat, il avait été ouvert au moment de la crise de 2007-2008, et c'était un débat plus précis sur la question du plafonnement de la rémunération des traders. Et même le G20 à l'époque avait essayé de faire un vague communiqué pour dire qu'il faut faire quelque chose, mais il est clair qu'il n'y a pas d'accord international sur ces sujets, et donc dans une économie ouverte, il peut y avoir un sujet. il peut y avoir un sujet. Deuxième remarque, je pense qu'on ne peut pas passer par des textes pour plafonner la rémunération des dirigeants.
Il n'appelle pas à une loi. Hein.
Non, mais...
Bien d'accord.
Veut dire, sur le principe, on peut dire, on peut constater que les inégalités se sont aggravées avec la mondialisation. C'est-à-dire, elles se sont réduites entre les pays et accrues dans chaque pays. À l'intérieur de chaque pays, il y a augmentation des inégalités. C'est documenté. Donc, si on veut traiter ce sujet-là, il y a plus... Je veux dire, pour moi... c'est plus par éventuellement la politique fiscale qu'il faut le traiter. Attends, je termine. C'est plus par la politique fiscale qu'il faut le traiter que par l'idée qu'on va fixer un plafond. Je ne crois pas. Je ne crois pas à l'autorégulation des entreprises. J'aimerais bien l'autorégulation. Et ce que dit, au fond, le patron de Michelin, c'est que lui, il est prêt à jouer le jeu de l'autorégulation. Mais il est quand même relativement seul dans le paysage. Je rappelle d'ailleurs, pour revenir sur les salaires, que la situation de Michelin est quand même un peu particulière, parce que vous avez 3% des salariés qui sont au SMIC, chez Michelin. En France, en moyenne, c'est 10%. Donc, son exemple n'est pas généralisable.
C'est même 17 en moyenne, non? Bon, à 17 maintenant.
Ben, moi, j'avais le chiffre. Bon, en tout cas, beaucoup plus que les 3% de Michelin, c'est pas représentatif.
Oui.
Donc, difficile de généraliser quelque chose qui n'est pas représentatif de l'ensemble des entreprises et secteurs. Et je répète, plutôt que cette idée d'un plafond, à quel chiffre plafonner, ça rejoint le débat sur ce que disait François Hollande quand il était président, définissant les riches à partir de 4 000 euros à l'époque, il me semble.
Voilà. 4 000 euros, on était riches, et il avait ajouté, je ne sais pas, les riches.
Donc, le débat pour moi sur la correction des inégalités de revenus et éventuellement de patrimoine dans le même temps, c'est la réponse, c'est la politique fiscale, ça n'est pas le plafonnement réglementaire, si je puis dire.
Il a eu la première phrase dans l'interview au JDD, c'est « Chez Michelin, on ne veut pas fabriquer de la valeur sur le dos des gens ». J'admets que ça, c'est bien préparé, cette affaire, quand même. Votre avis là-dessus on marque une pause, Benjamin, parce qu'il y a 38 secondes, 37, là, 36. On marque une pause. Christian a raison, la question du partage de la valeur est derrière tout ça, et on ne va pas s'arrêter exclusivement sur les phrases de M. Florent Ménégo, qui explique dans le JDD que lui, il a un plafond. Bon, on fait ce qu'on veut chez Michelin. Hein. Le salaire décent chez Michelin, c'est 2 SMIC à Paris, par exemple, pour une famille de 4, 2 enfants, 2 adultes, avec un seul qui travaille. Votre réaction dans un instant, et puis à tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Christian Deboissieu, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes, partenaire de cette émission tous les jeudis. Et BFM Business sera bien sûr à Aix-en-Provence, comme tous les ans. Benjamin Coria, professeur de Sciences Éco à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés. Vous avez publié Le bien commun, le climat et le marché, réponse à Jean Tirole aux éditions Les liens qui libèrent. Romain Rivaton, directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate, membre du comité scientifique de la Fondapol, auteur de Sourions, nous sommes filmés aux éditions Alpha. Un mot sur Stonal, vous avez eu un article dans Les Échos et vous avez fait l'actualité cette semaine. Et après, je fais réagir Benjamin sur le partage de la valeur.
En fait, on a levé 100 millions d'euros, effectivement. Donc,
100 millions d'euros, oui. C'est pas une petite levée de fonds. Petite
levée avec le leader européen du logiciel immobilier, c'est un Allemand qui s'appelle Areon. On va pouvoir développer nos solutions désormais sur tout le parc de logements de ce géant, puisqu'ils ont 18 millions de logements qui sont gérés à travers leur logiciel. Donc on va développer nos solutions sur ce patrimoine.
On rappelle Stonal, c'est la nouvelle techno, en fait.
C'est une plateforme de gestion de la donnée bâtimentaire, notamment alimentée par l'IA, puisqu'on collecte tous les documents relatifs à un patrimoine immobilier. On extrait les informations de ces documents.
Je vous entendais tout à l'heure sur la loi Casbarian. J'ai pas mal de réactions. Louis m'écrit, si la SNCF était une entreprise privée, elle serait depuis longtemps en tribunal de commerce. Je pense qu'il a raison.
Oui, c'est ça. Et puis on se promènerait à pied, on ferait Paris-Lyon en vélo. Oui, c'est ça. Non, mais écoutez, franchement, ils sont sympas.
Vous pourrez.
Je veux dire, c'est pas sérieux. Et puis on s'éclairerait à la lanterne aussi, parce qu'il faudrait supprimer EDF. Bon, enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Je suis désolé.
Vous allez réagir dans un instant. Fabien m'écrit, il a raison, c'est vrai. Quand j'ai cité Jean-Pierre Farandou, on ne peut pas transformer une entreprise contre ses salariés. C'était également un élément. En fait, je l'ai fait de mémoire à la phrase. Je l'ai dit hier en intégralité. J'ai oublié contre ses salariés. Enfin, ça n'enlève rien au fait que j'ai le sentiment que c'était une sorte d'aveu de fatalité.
Voilà. Enfin, je vais quand même dire juste un mot là-dessus. Là, la France se targue d'être en tête sur les questions de attractivité. Et quand on interroge pourquoi, la réponse, c'est une des premières réponses, c'est la qualité des infrastructures et des services publics. Donc, faut savoir ce qu'on veut quand même. Hein.
Bon. On dit infrastructures, services publics, infrastructures.
Les infrastructures en France, pour l'essentiel, c'est encore des services publics. J'espère que ça va durer.
Les routes, le ferroviaire.
J'espère que ça va durer pour l'intérêt de la France. Hein.
Non, mais
pour
j'ai
l'intérêt
jamais.
De la France. Bon. Non, voilà. Non, mais je veux dire, on parle d'infrastructures là.
Oui, hein. Oui, d'accord.
On parle pas de vendre des tablettes de chocolat. Hein.
En attendant, et là où cet auditeur a raison, c'est que la SNCF a pu se permettre d'être en trésorerie négative et en fonds propres négatifs certaines années.
Pour toutes les raisons qu'on a dites. Bon. Toutes les raisons qu'on a dites.
Bah, une entreprise privée.
Alors, maintenant, on va revenir quand même sur le débat sur les questions de
partage de la valeur.
De partage de la valeur.
On parlera après de l'emploi et des salaires.
Sur le plan de communication de Michelin, je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est un peu compréhensible, hein. Et je suis d'accord aussi sur le fait que c'est un plan de communication, c'est un choix qui est pas tellement surprenant quand on pense à l'image paternaliste qu'entend se donner Michelin. C'est dans une certaine continuité. Si on avait lancé ce débat à propos du patron de Stellantis, je pense que ça serait plus clair, hein, sur le fait qu'il y a peut-être à réfléchir sur comment limiter la rémunération des patrons.
Bon,
Sur Michelin, c'est pas vraiment le bon exemple, mais sur Stellantis, ça permettrait de réfléchir. D'autant que c'est une chose. Je suis désolé.
Réfléchir à quoi, Benjamin Coria? Réfléchir à une loi qui ferait.
Non, attendez.
Ah, parce que c'est quand même.
Non, parce que je suis parfaitement.
En ligne avec
Stéphane. Je suis parfaitement mon collègue sur ce point. Je pense que ça passe par la fiscalité. Hein, ça ne passe absolument. Je ne pense pas du tout que ça puisse passer par une loi limitant les salaires, etc. Bon. Certains proposent comme ça de limiter les salaires à je sais pas quoi, 5 fois, 7 fois.
Mais comme vous êtes économiste, effectivement, vous n'allez pas tomber dans ce travers.
Donc, je pense qu'effectivement, il faut que ça passe par la fiscalité. Et d'ailleurs, je saisis l'occasion pour dire que ça ne doit pas traiter que des questions de très hauts salaires. Il y a un problème plus général, monsieur le maire me le pardonnera, de désordre général de notre fiscalité.
Comment ça ?
Qui permet des abus absolument insensés. Je veux dire, un désordre général de notre fiscalité. Lorsqu'on a la dette qu'on a, hein, on ne fait pas les cadeaux qu'on fait aux entreprises du CAC en les laissant pratiquer les rachats d'actions au niveau qui. Ah ben écoutez, je suis vraiment pas le seul à dire
non,
ça.
Non, vous n'êtes pas le seul à dire
bon,
ça.
Ben ah bon, ben quand même. Non, mais il faut pas me faire apparaître comme quelqu'un d'anormal parce que je pense qu'il y a du désordre dans la fiscalité avec le niveau de dette. Qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc ce que
si je
pense,
vous suis bien, ça veut dire que.
Si vous me suivez,
ça veut
si
dire qu'il faut aller chercher de l'argent par la fiscalité.
Ça veut dire qu'il faut récupérer de l'argent par de la fiscalité sur le capital, absolument. D'accord. Donc à la fois, alors c'est pas du capital, mais les très hauts salaires, donc il faut absolument réintroduire des tranches supplémentaires d'imposition sur les hauts salaires. Oui, je n'ai absolument aucun. Je veux dire, laisser des salaires de dizaines de millions d'euros, mais où est-ce qu'on est là? Mais où est-ce qu'on est? En plus, pour Stellantis, je trouve ça vraiment très intéressant. Parce que quand ça s'appelait Peugeot, et que Peugeot était en difficulté, il n'y a pas eu un actionnaire privé pour mettre un sou. Il a fallu que ça soit l'État qui vienne chercher.
Dongfeng. Dongfeng a mis de l'argent
non, non, non,
parce
non, non,
que
non.
L'État.
L'État qui est allé chercher Dongfeng.
Oui.
Pour... Oui, c'est. Oui.
Oui.
L'État. C'est l'État qui. Et maintenant que ça fait de l'argent, hop, c'est pour monsieur Stellantis et les actionnaires. Non, je trouve ça formidablement choquant. Voilà.
On bien. Vous opposera alors, le fait que peut-on encore.
En tout cas, je pense qu'il est plus que temps d'abandonner le credo fondamentaliste sur on ne touche pas à la fiscalité des entreprises, on ne touche pas à la fiscalité des riches. Par contre, oui, on attaque le système de protection sociale, on attaque les chômeurs, on attaque le système de santé par des hausses systématiques de tickets d'entrée. Bon, je veux dire, il y a de l'ordre à mettre dans tout ça. Oui, je dis que notre système fiscal atteint un niveau de désordre.
Le terme de désordre est assez original pour parler de la fiscalité.
Bah, si vous le mettez en face de la dette, ça devient très clair.
Bon. En tout cas, vous êtes sur la position d'Éric Coquerel qu'il a tenue mardi dans les colonnes des Échos.
Il ne faut pas me faire...
Non, mais il considère que c'est la...
Je suis sur la position de, je pense, la majorité des Français qui pensent qu'il faut revoir le système fiscal.
Réaction à ce que dit Benjamin Coria, je citais Éric Coquerel qui considère que ce n'est pas vraiment la baisse de dépenses qui s'impose, mais plutôt la hausse des recettes.
Ben c'est ce que dit le gouvernement, d'ailleurs.
Moi, je pense...
Le gouvernement, il dit, c'est
très désordonné, là. C'est un problème de recettes.
Il est très désordonné sur le sujet.
Mais il dit c'est des recettes.
Christian de Boissieu.
Je ne vais pas revenir sur tous les sujets abordés par Benjamin. Sur la question des rachats d'actions.
Oui. Ah ben, allons-y. Bon, allons-y.
C'est
allons-y.
Un aspect du sujet.
C'est l'un des éléments d'actualité, d'ailleurs. Moi, je suis... Là-dessus, il se passera quelque chose.
Peut-être... Je veux dire, il y a deux aspects. Il y a le problème du plafond réglementaire. Quand j'étais au collège de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, on a des textes qui plafonnent la capacité pour les entreprises de racheter leurs actions. Bon, c'est plafonné, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça, c'est l'aspect réglementaire. L'aspect fiscal, deuxième jambe, moi, je ne suis pas contre. Alors, peut-être définir des seuils, j'en sais rien, au-dessus duquel ça devient problématique.
Il y a deux entreprises qui ont racheté leurs actions massivement en France.
Aux États-Unis.
Total et BNP. Après, il n'y en a pas. Hein.
C'est quand même une pratique assez courante pour améliorer la rentabilité financière, pour tenir le cours de bourse, pour se prémunir contre l'entrée du cheval dans Troie, des problèmes de gouvernement
c'est
d'entreprise.
C'est aussi de l'investissement qui circule, après.
Bon, non, je ne suis pas contre. Attendez, je dis que pour ouvrir un débat qu'on a déjà eu à plusieurs reprises autour de la table, il ne faut pas mettre la clé sous la porte en ce qui concerne la question de la maîtrise des dépenses publiques.
Mais bien.
Bon, je pense qu'on ne pourra pas... Ensuite, comment on pondère ce qui pourrait provenir de quelques impôts? Alors, il y a un débat qui s'est ouvert depuis quelques jours sur le crédit impôt recherche. Attendez, je suis complètement contre la remise en cause du crédit impôt recherche. Alors, ça coûtait dans le temps, je n'ai pas les derniers
chiffres.
7 milliards. J'avais en tête 5-6 milliards, je ne suis pas très
loin. C'est la deuxième niche de France après les emplois à la personne.
Le plus favorable du monde.
Attendez, je suis complètement pour le crédit impôt recherche. On peut moduler, on peut... Les PME se plaignent de ne pas, en quelque sorte, en bénéficier proportionnellement suffisamment par rapport aux grandes entreprises. Il y a eu ce débat qui a été ouvert il y a 10 ans, grandes entreprises versus PME à propos de ce soutien, c'est cette carotte qui est importante. Donc moi, je suis contre la remise en cause du crédit impôt recherche. Je suis pas contre le fait qu'on regarde s'il faut ou pas fiscaliser certains achats d'actions, mais je dis, pour terminer...
Et surfiscaliser certaines rémunérations.
Je voudrais pas que ces débats fiscaux... Oui. Ferme la porte du débat sur la maîtrise des dépenses, d'un certain nombre de dépenses.
Là, je vous rejoins, Christian, car du côté du Parlement, les idées fleurissent sur le terrain fiscal, assez peu sur le terrain des économies budgétaires. Sur tout ce qu'on s'est dit, Romarie Vatton, vous avez une...
Moi, je pense
fiscaliser les rachats d'actions, éventuellement s'attaquer au crédit d'impôt. Tous les ans, on a un débat crédit d'impôt recherche qui, généralement, fait chou blanc, mais il existe quasiment tous les ans, voire aller jusqu'à fiscaliser davantage au-delà d'un certain niveau de rémunération. Je pense que vous n'allez pas être très fan des solutions fiscales.
Non, mais quelques commentaires rapides là-dessus. Je suis assez critique sur l'action du gouvernement pour lui reconnaître au moins une vertu, c'est d'avoir continué la politique de l'offre sur 10 ans, c'est-à-dire 2014, François Hollande, Emmanuel Valls et Emmanuel Macron, jusqu'à aujourd'hui, avec des mesures qui ont permis de limiter le coût du capital et de baisser la taxation des entreprises, notamment l'impôt sur les sociétés et un petit peu sur les impôts de production. Si on casse ça aujourd'hui, on peut le faire, mais si on le casse aujourd'hui, on va avoir des effets récessifs qui vont être terribles. Mais on peut y aller, allons-y, je veux dire, Et deuxième point sur la taxation des hauts revenus dans ce pays, on est l'un des seuls pays d'Europe à ne pas plafonner les cotisations sociales. Oui. Ce qui fait que quand j'embauche un ingénieur en France, il me coûte très rapidement deux fois, trois fois plus cher que si j'embauche quelqu'un en Allemagne. Sur les salaires avec des talents, aujourd'hui sur l'IA par exemple, ça va très très vite. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont plafonnés, vous avez des gens qui ne sont pas plafonnés, et donc ça explose. Donc la question n'est pas tellement de savoir...
Ce que vous dites, parce que c'est très important, on a déplafonné, alors je ne sais plus quel niveau, au-delà d'un certain niveau de salaire, il n'y a pas de plafond...
C'est proportionnel, et donc vous allez recevoir quelques quelques milliers d'euros d'utilisation de la sécurité sociale chaque année, et vous allez payer 10 000, 20 000, 30 000 euros par an de cotisation. Dans les autres pays, il y a une sorte de limite, vous touchez, vous consommez une partie, vous n'allez pas contribuer 10 fois, 20 fois à votre consommation. Et donc ce mécanisme-là, il est extrêmement vicieux, et ça c'est le coût total du salaire, le coût total des employés. La question n'est pas de savoir si la personne elle-même, elle est taxée. La question c'est combien elle coûte pour une entreprise, et pourquoi je choisis d'installer des activités en France, ou pas en France justement, pour les installer aux Pays-Bas, ou les installer en Allemagne, ou les installer au Royaume-Uni.
Je pense que le retour du plafonnement des cotisations sur tous les salaires serait une réforme structurelle essentielle. Ouais, ça, je vous rejoins là-dessus.
Je voudrais juste dire un mot, parce que je ne peux pas laisser dire n'importe quoi. Vrai que depuis 10 ans, on a mené une politique de l'offre systématique, et le résultat, c'est quoi?
C'est que si on regarde, c'est très simple.
Si on regarde le niveau de chômage de la France, c'est un des plus mauvais de l'Union européenne. Si on regarde notre taux de croissance, il est aussi, etc. Donc, je veux dire, on se gargarise des performances des entreprises du CAC 40. Alors là, pour ça, oui, ça a réussi.
On est parti du niveau le plus haut.
Non, mais attendez, en 10 ans, on a le temps de faire ses preuves quand même.
Regardez
le classement de la France dans l'Union européenne sur tous les paramètres importants de la croissance, de l'emploi, etc. Et vous verrez le résultat. Il est extrêmement mauvais. On est parmi les plus mauvais.
Partant d'une situation qui est mauvaise, c'est la comparaison absurde dans le temps. Je rappelle,
donc, c'est la croissance européenne,
Christian Le Boissieu,
qui n'est pas bonne, mais sur les derniers chiffres, pas cocorico, on est au-dessus.
Oui, des trois derniers mois.
On est au-dessus de la moyenne de la zone euro, qui n'est pas bonne. On n'est pas bon. On est tous mauvais. Mais je pense que...
En termes de chômage, on est les deuxièmes plus mauvais.
Non, mais comme le dit Robin, on partait quand même de très haut.
Non, mais on a touché le niveau de chômage le plus bas de l'histoire économique moderne de la France il y a deux ans, mais
en suivant l'Europe, en étant les plus mauvais de l'Europe. C'est ça qu'il faut dire quand même. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'on a fait. C'est même mauvais par rapport au reste de l'Europe. C'est ça qu'il faut dire. On n'est pas dans une île.
On a quand même, grâce à la politique de l'offre, retrouvé des niveaux de chômage qui ne sont pas bons, mais qui sont très loin des sommets que l'on a pu connaître.
Mais qui sont, je répète, le deuxième plus mauvais d'Europe.
Prenez la réaction des investisseurs étrangers qui sont questionnés sur notre pays. La politique de l'offre, la stabilité fiscale sont les deux trucs qui sont mis en avant, désormais.
Et ça fait 40 000 emplois. C'est vraiment formidable. Et combien ça nous coûte, on ne le met pas en face.
Ce débat politique de l'offre, politique de la demande, c'est un peu une impasse, parce qu'il faut les deux.
Tout dépend d'où on démarre.
Donc moi, quand j'étais jeune, j'étais plus keynésien qu'aujourd'hui, même si je le reste par certains côtés, mais je pense que la baisse des impôts de production, pour revenir à ce qu'a dit Robin, c'est une bonne chose. Le problème, c'est de savoir, dans le contexte actuel, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour aller plus loin.
Si je suis pour une réforme de la fiscalité, c'est parce que je suis pour une autre politique de l'offre. Ça veut dire que ce que les entreprises ne font pas avec leurs profits, il faut être capable, pour partie, de le prendre, pour avoir une politique de l'offre publique. Parce que il n'y a pas que la politique de l'offre qui consiste à laisser la main aux entreprises qui ne font pas ce qu'il faut faire. Et je ne dis rien sur la transition écologique et l'état dans lequel on est. Bon, donc s'il n'y a pas quelqu'un qui fait les choses, personne ne le fait.
Bon, bah écoutez...
Oui, c'est mon point de vue.
Vous avez le droit de défendre un point de vue possible. Moi, j'ai le sentiment que la politique de l'offre, on n'a pas eu tort de la mettre en œuvre et que de s'y tenir, et que c'est surtout pas le moment, effectivement, d'envoyer les signaux contraires.
Je pense qu'il est temps d'en faire complémentaire et différente.
L'emploi, on n'a pas parlé du premier...
Mais allez-y. L'emploi salarié au premier trimestre 2024 a rebondi.
Dans la presse d'hier et d'aujourd'hui, oui, c'est-à-dire... au fond, il y a une sorte de surprise, entre guillemets, parce que l'emploi a rebondi, alors que les prévisions qu'on avait à la fin de l'année dernière nous amenaient vers une croissance continue du taux de chômage. D'ailleurs, c'est pas incompatible, les deux. Moi, je pense que derrière ce chiffre d'un emploi qui rebondit légèrement au premier trimestre 24, d'abord, c'est dans l'industrie pas dans l'agriculture, pas tellement dans les autres secteurs. Deuxièmement, il y a peut-être un phénomène de rattrapage derrière tout ça, tenant au fait que, je parle pas des métiers en tension sur lesquels il y a des situations spécifiques, mais il y a un certain nombre de secteurs qui avaient peut-être attendu un peu d'y voir un peu plus clair avant de reprendre les embauches. Il y a peut-être un phénomène de rattrapage. Et je pense que ce chiffre plutôt bon du premier trimestre est compatible, je dirais malheureusement, avec le fait que le taux de chômage va continuer à augmenter, disons, au-delà du mois le mois, il va continuer à augmenter. Je me souviens que la Banque de France avait prévu, il y a quelques mois, un taux de chômage en juin de 7,6%.
Un truc comme ça, oui.
L'OFCE est à 8%.
Quasiment fin.
Alors, on peut discuter des chiffres, mais ça va continuer à augmenter, parce que même s'il y a eu un peu de croissance, alors qu'on pensait être à zéro de croissance au premier trimestre 2024, on a eu plus 0,2, qui sera peut-être révisé dans un sens ou d'autre, on verra. Donc, il y a... ça rend possible la prévision du gouvernement pour 2024 à 1%. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, quand on était autour de votre table, on disait 0,7. Alors, ça sera peut-être 0,7, mais là, avec le plus 0,2 du premier trimestre 2024, le 1% n'est pas impossible statistiquement.
Il faudrait faire 0,3 autre chose.
Alors qu'avant, si on était à 0 au premier, si on avait été à 0 au premier trimestre, ça faisait un acquis de croissance de 0,5 en juin 2024. Il fallait faire du 0,7 et 0,7 sur les deux derniers trimestres, ce qui est très compliqué. Donc là, le gouvernement retrouve un peu des couleurs sur ses prévisions, mais je dis malgré ça, moi je pense que malheureusement le chômage va continuer à augmenter dans les mois qui viennent.
Argument pour ne pas réformer l'assurance chômage, puisque normalement on avait dit qu'il y aurait une...
Surtout si on tient compte du malus bonus, on tient compte de la conjoncture.
Ouais. Et on a 9 minutes 30. Je voulais vous entendre, Romain Rivaton, sur Javier Milei en Argentine. Parce que j'ai regardé tout ce qu'il a engagé. Alors c'est effectivement à la tronçonneuse, hein. Dans tous les sens. Certes, effectivement, le pays est repassé dans le vert pour la première fois depuis 15 ans. Il faut voir à quel prix. Mais sur le logement, il a lâché la bride. Il n'y a plus aucune contrainte. Moralité, le marché de la location repart. Est-ce qu'il y a une leçon à tirer de ce que fait actuellement le président argentin sur le fait de... Bah, c'est une leçon de libéralisme. Libéralisons. Vous savez, c'est la fameuse image, on dit, si vous connaissez Paris, on dit, bah, vous allez Porte de la Chapelle, vous avez des feux absolument à chaque... Partout, c'est constamment engorgé, constamment bouché. Et vous allez Place de l'Étoile, il n'y a pas de feu, ça roule tout le temps. Libéralisons, et vous allez voir, le marché va repartir de lui-même. En tout cas, sur la location, il est probablement en train de nous donner une leçon.
Oui, alors après, c'est des statistiques sur Buenos Aires, sur des échantillons qui sont petits, et dans un marché où les dispositions qui avaient été prises étaient devenues tellement contraignantes pour les propriétaires que un peu de libéralisation a des effets évidemment très positifs. Après, il faut bien voir que ces effets sont marginalement décroissants, et donc au début, ils ont des effets très positifs, et plus vous allez enlever des couches, moins ça va créer des effets. Nonobstant, c'est quand même extrêmement intéressant, et c'est quelque chose qui est très vrai sur le marché du logement. Ça a été prouvé. Quand vous bloquez un marché, c'est pas positif. Il y a peu de marchés pour lesquels c'est positif. Mais sur le logement, c'est encore pire, parce que vous grippez non pas seulement le logement, mais vous grippez les décisions individuelles des individus de s'installer ici, de se mettre en couple, d'aller prendre un nouvel emploi ici. Et donc, en fait, ça a des effets démultiplicateurs, pas sur ce seul secteur du logement, mais sur l'intégralité de l'activité économique du pays. Et donc, le blocage des loyers, ça, sur le papier, c'est très bien. Ça favorise ceux qui sont en place, ça pénalise tous ceux qui sont pas dans les logements, et celui qui est en place, il a un intérêt évidemment désormais bien assuré à rester dans son logement, et ça fait quelque chose qu'on a connu en France, hein, qui s'appelle la loi 48, où en fait il y a des gens qui sont restés pendant des décennies à l'intérieur de leur logement, malheureusement, alors qu'ils auraient dû, dans un marché normal, et en partir, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus d'attache nécessaire dans ce logement-là, mais bah, évidemment, quand vous avez un loyer qui est extrêmement réduit, vous n'avez aucun intérêt à aller chercher ailleurs. Donc oui, ça a un effet. Faut pas le surinterpréter.
C'est un peu survendu dans la façon dont je vous ai posé la question, volontairement. Volontairement.
Mais en tout cas, on a besoin de libéralisation. Et un des gros problèmes sur le marché du logement, c'est un cycle qu'on a vu dans beaucoup de pays, c'est on ne construit pas assez de logements. Le stock n'est pas en adéquation avec les besoins et les demandes de la population. La première réaction, les gens crient. On peut pas bloquer les valeurs, mais on peut bloquer les loyers. Du moins, le gouvernement peut bloquer les loyers. On bloque les loyers, donc on met plein, on les cape, on les limite la croissance. Ça crée une incitation incitation très forte à ce que les gens restent dans leur logement. Les nouveaux arrivants sur le marché du logement se trouvent avec un marché qui n'est pas du tout liquide, où il n'y a pas du tout de fluidité. Et donc, eux arrivent et se retrouvent vraiment pénalisés. Jusqu'à un moment, la boucle explose et finalement, on enlève ces dispositions de protection sur les loyers et on se remet surtout à construire, qui est quand même la clé dans ce marché-là. C'est le but, c'est pas tellement de bloquer les loyers que de construire. Si on construit beaucoup, les loyers baissent. C'est la règle quand même. Aux États-Unis, dans toutes les villes où on a beaucoup construit, les loyers actuellement sont en baisse forte. Dans toutes les villes où on n'a pas construit, les loyers sont repartis à la hausse.
C'est une loi des reins de l'économie. Hein.
Dans le logement, oui.
Vous vouliez réagir après, je demanderai à Robin ce qu'il pense de la loi Casbarian, parce que justement, elle a des particularités.
Non, je voulais juste réagir en élargissant un tout petit peu le débat. Il se trouve que moi, j'étais en Argentine, il y a une vingtaine d'années, à l'époque où il y avait de nouveau un régime ultralibéral, qui avait, c'était Caval au ministre des Finances, et c'était l'arrimage peso-dollar. Et ça avait été salué comme une pure merveille de macroéconomie, etc. Et effectivement, les résultats sur la première année ont été extrêmement bons. Ensuite, ça a plongé l'Argentine dans la plus grande des crises qu'elle ait jamais connue. Donc là, il y a un petit mieux avec... Moi, vous savez, au poker, on dit joker. Moi, je dis le temps. Le temps. Donc,
j'admets que j'ai un peu survendu la sauce. Je le dis. Non, mais je dis franchement que j'ai un peu survendu la sauce. Oui, Christian Leboissieu, allez-y.
Je voudrais.
Il y a l'effet de très court terme.
Par rapport au débat qui s'est amorcé sur le logement, moi, je pense effectivement que le principal goulet d'étranglement, c'est l'offre, c'est la construction. Oui. Et sur ce terrain-là, je ne vois pas ce qui se prépare. Alors certes, les taux d'intérêt, la BCE va probablement commencer à baisser son taux directeur en juin, et que ça va continuer un peu, que ça va aider à la fois du côté de l'offre et du côté de la demande des deux côtés. Mais je veux dire, moi je suis complètement séduit par les thèses que le constat que faisait Alain Dinin, l'ancien président de Next City, il y a quelques années. Il répétait le foncier, l'offre, etc. C'est le problème central. Quand on dit la solution, c'est d'augmenter l'offre, le temps. Le temps.
Bien sûr.
La gestion du temps. Donc, moi, concrètement, alors, c'est une manière de faire la transition vers le débat sur la loi.
Casbarian.
Comment on dope l'offre de logements. Je parle du résidentiel. Le bureau, c'est autre chose. Il est en surcapacité dans pas mal d'endroits pour des raisons qu'on connaît bien. Donc, il y a vraiment un sujet résidentiel.
Il y a des éléments qui ne sont pas abordés par la loi Casbarian. Le ministre le reconnaît lui-même. C'est tous les éléments qui seraient des éléments budgétaires qui font appel forcément à une loi de finances et qui ne peuvent pas être inclus dans une loi hors loi de finances.
Et on est ramené à la fiscalité.
Mais non, parce qu'en l'occurrence, c'était l'idée de savoir s'il fallait pas qu'il y ait un coup de pouce financier pour les maires bâtisseurs.
Oui, c'est une autre politique de l'offre.
Alors, c'est une politique de l'offre qui se traduirait a priori par un transfert de TVA.
Bon, nous y sommes.
Vous avez évidemment, j'imagine, regardé ce texte de près. Alors, c'est un texte, il y a plein d'éléments, parce que comme toujours, quand on parle offre, demande, logement, il y a des quantités de choses qui entrent en ligne de compte. Vous en pensez quoi de la loi Casbarian, Robin Yvaton? J'avais Poitrinal, que vous connaissez, qui est le patron de WO2, qui était plutôt pas trop déçu.
Oui.
Voilà.
La mesure phare, c'est la mesure d'augmenter la rotation dans le stock dans le parc de logements sociaux et intermédiaires, on va dire le stock de logements publics en France, avec plutôt des bonnes mesures. Alors après, ça fait 15 ans qu'on écrit des lois pour faire ça. Hein. Donc en fait, le gros problème n'est pas tellement maintenant le problème c'est de les faire appliquer. C'est-à-dire qu'elles sont mitées. Elles sont mitées parce que il y a des limites d'âge, il y a des limites géographiques, les zones de revitalisation urbaine sont exemptées.
Et je crois qu'il y en a moins là dans ces.
Alors justement, eux, ils vont enlever toutes ces exceptions.
Les plus de 65 ans ne seront pas concernés et les handicapés familles avec handicapés ne seront pas concernés, mais a priori tout le reste.
Je vais vous expliquer la jeunesse des 65 ans. En 2009, on vote au Sénat un texte en disant l'exemption à la mobilité, c'est 75 ans. D'accord. Les sénateurs l'abaissent à 65 ans. C'était en 2009. 2009-2024, 15 ans s'est écoulé. La moyenne d'âge du parc HLM a augmenté de 2 ans dans l'intervalle. On ne l'a pas fait bouger. Et donc, au final, on voit bien que c'est 65 ans. Si vous faites cette exemption à mobilité à 65 ans, vous enlevez un tiers potentiel des choses. Et donc, aujourd'hui, là où on a un sujet, c'est que vous avez une partie, le débat a été, est-ce que c'est 8%, 12%, 20%, 20% des gens qui sont aujourd'hui, qui devraient avoir ce qu'on appelle des suppléments de solidarité, c'est-à-dire en fait des surloyers concrètement. Aujourd'hui, les surloyers en France, ça représente 0,1% du total des loyers perçus par le monde du logement social. Ça devrait représenter entre 1 et 2%.
C'est ça. Pas 0,1, mais entre 1 et 2.
Ah, et, oui. donc, et pourquoi ? Les raisons sont multiples. Quand un bailleur social va collecter du surloyer, il leur envoie 80% en centrale. Est-ce qu'il a un intérêt, lui ? Il leur renvoie l'argent qu'il a collecté dans un fonds où c'est pas lui qui en bénéficie. Donc qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un ? Tu vas aller t'embêter à gérer des déménagements. C'est des situations complexes, hein, quand même, de dire à quelqu'un il faut que tu quittes un logement social. C'est pas facile. Ou qu'il en trouve un autre. Et on lui dit, là-dessus, 80% de ce que tu vas aller récupérer, tu vas le renvoyer en centrale. Bah, il dit, d'accord, mais moi, ça m'intéresse pas de faire ça. Donc, il y a plein de petites exemptions. Cette loi les adresse. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Là où la loi manque, c'est que, à la fin, même si on augmente la liquidité ou la mobilité dans le parc du logement social, on n'a pas augmenté le stock de logements. Vous avez 100 habitants, vous avez 90 logements, vous avez forcément un mismatch. Et donc, aujourd'hui, le sujet, et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'obsède. Vous savez que j'avais écrit, il y a plus de 2 ans et demi maintenant, le logement bombe sociale à venir.
Ouais, expliquer un peu toutes les étapes
de cette crise. Les choses sont assez simples. La France est le pays qui a le plus construit de logements parmi les pays développés de 2000 à 2020. D'accord ? Le plus, on a le construit en rapporté en nombre d'habitants. Désormais, on est en train de s'effondrer. S'effondrer, c'est-à-dire qu'on passe de 420 000 logements par an supplémentaires à 280 000. Les 140 000 qui manquent, c'est 140 000 en 2024, 140 000 en 2025, et donc vous arriverez dans 10 ans avec 1 million de logements qui vont manquer. Et ce million de logements, c'est très simple. Comment on résout ça ? Les gens s'entassent. Les gens finissent pas à la rue, en fait. Quand vous avez une crise de logement, les gens font tout pour finir à la rue. Donc, ils font quoi? Ben, c'est des enfants qui cohabitent avec les parents. C'est des enfants qui vont pas aller faire des études à l'université. C'est le couple qui devrait divorcer, qui malheureusement peut plus divorcer. Et ainsi de suite. Donc, les conséquences sociales de la crise du logement, elles sont devant nous. Elles sont terribles. Et le point de blocage, le seul et l'unique, c'est que les collectivités territoriales n'ont plus aucun intérêt à autoriser la construction de nouveaux logements sur leur territoire. Elles n'ont aucune ressource propre dont elles bénéficient. Et elles ont que des coûts.
Une phrase.
Oui. Cette loi, elle traite le problème de la fluidité du marché. Elle traite pas, c'est pas la réponse au problème de l'offre qui est le problème central.
Merci. J'aurais bien continué sur la question du logement, ça me passionne. Ça passionne pas le gouvernement.
Ah non, mais du temps à s'y mettre. Ni sans doute au-dessus.
Mais clairement, par contre,
vous avez tout à fait raison, c'est vraiment une bombe sociale.
Il y a un vrai problème. Ça fait depuis plus de 2 ans que Benjamin...
C'est juste.
Robin nous explique en quoi la bombe sociale est en train de s'incarner et clairement, aujourd'hui, on en a le résultat. Il a fallu aller très très loin pour qu'on commence à l'évoquer au niveau politique, ce sujet du logement, de manière un peu sérieuse. Merci de vous être déplacé en ce jour férié, Christian de Boissieu, Benjamin Coria, Robin Rivaton. On sera là demain, le 10 mai, vendredi, à 9h.
Donc on aura notre dos.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.